Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
De retour d'une tournée dans la région des Grands Lacs, le docteur Ronnie Jackson a dressé pour le Congrès américain dont il est membre un état des lieux d'une très grande sévérité sur l'est de la République démocratique du Congo, avec des propositions qui pourraient paraître discutables, sinon controversées aux yeux de certains. Les constats de cet élu républicain ne reflètent-ils pas, malgré tout, quelques vérités à prendre en compte ?
Il serait difficile de lui donner tort lorsqu'il dépeint l'Est de la RDC comme la caricature du Far West, avec toute la charge que porte dans l'imaginaire collectif cette métonymie. Au XIXe siècle, le Far West américain se distinguait en effet par la loi du plus fort et plus personne n'y reconnaissait les règles communes. Et il a raison d'insister sur l'incapacité du gouvernement de Kinshasa à contrôler la région par manque de ressources. On a du mal à le contredire, même lorsqu'il pointe du doigt la corruption, l'enrichissement de certains membres du gouvernement et de leurs familles, pendant que la population survit péniblement. Quant à la responsabilité des pays voisins, Ouganda, Rwanda et Burundi, elle n'est pas contestable. Il les accuse, doux euphémisme, d'importer des minerais de l'est du Congo. Certaines de ses propositions sont par contre déroutantes. D'aucuns pourraient lui reprocher de reprendre à son compte l'argumentation des soutiens de la rébellion quand il explique leur guerre par ce qu'ils considèrent comme un déficit d'inclusion par rapport à la citoyenneté congolaise des communautés rwandophones auxquels sont d'ordinaire associés les rebelles du M23. Et l'idée d'intégrer les rebelles à l'armée nationale pourrait choquer au regard de ce qui a déjà été fait dans ce sens en vain.
Pourquoi alors donner une telle importance à ces propositions ?
Parce que Ronnie Jackson passe pour être très proche de Donald Trump et sa perception pourrait s'imposer comme la politique congolaise des États-Unis. D'autant que sa vision et son insistance sur les difficultés pour les entreprises américaines qui voudraient s'implanter en RDC semblent conditionnées par cette forme d'avidité qui règne à Washington pour certains minerais stratégiques. Comme si l'essentiel au fond était de reproduire en RDC ce que les États-Unis tentent d'obtenir avec l'Ukraine en échange de la paix. À ce prix, les rapports de son pays avec la RDC pourraient déboucher sur ce que l'on qualifiait jadis de pacte colonial et qui consistait pour les nations colonisées à alimenter en matières premières les industries de la métropole. Ce serait inquiétant car cette répartition du travail fige les pays africains dans le sous-développement comme dans un piège sans fin. Mais s'il y a faute, elle incombe d'abord aux Africains eux-mêmes qui oublient de s'industrialiser, se contentant d'engranger les royalties pour fournir aux autres de quoi faire tourner leurs industries. Imaginez qu'un coffret d'un kilogramme de chocolat chez un des meilleurs chocolatiers mondiaux peut coûter en Occident jusqu'à 64 fois le prix du kilogramme de fèves de cacao payé aux producteurs africains. L'on retrouve plus ou moins la même échelle de déséquilibre pour tout ce qu'exporte brut l'Afrique. Café, coton, karité, bois, etc. La Chine doit largement sa richesse actuelle à la transformation des matières premières qu'elle importe d'Afrique.
Mais Jean-Baptiste, alors pourquoi l'Afrique se cantonne-t-elle dans ce rôle de fournisseur de matières premières pour enrichir les industries partout dans le monde ?
Déficit de leadership et d'audace. Les rares nations africaines qui s'en sortent sont celles qui savent prendre leur part dans la transformation de leurs matières premières. Si la RDC regorge de minerais essentiels pour les batteries d'ordinateurs, téléphones portables et autres véhicules non polluants, pourquoi donc n'exigerait-elle pas qu'au moins une des premières transformations nécessaires se fasse sur son sol ? C'est ce que font par exemple les Botswanais avec le diamant. Anvers, en Belgique, demeure certes la ville la plus prestigieuse du monde pour ce qui est de la taille du diamant. Mais sur ce marché, Gaborone, capitale du Botswana, où se situe la plus grande mine de diamants à ciel ouvert au monde, est loin d'être négligeable. Ainsi, grâce au leadership visionnaire de ses dirigeants, ce pays abrite les implantations de prestigieuses entreprises internationales, Hyundai, Saab Miller, Daewoo, Volvo, Siemens. Que tombe la pluie, dit la devise du Botswana. Mais pour qu'elle tombe effectivement, les Africains devraient s'interroger, se remettre en cause, plutôt que de compter sur la bonté de ceux qui prospèrent sur leur indolence.
Merci Jean-Baptiste Placa.